Débat et controverse sur BFM Business.
Émission spéciale, les experts de la tech. Nicolas Dose, Anthony Morel.
Avec aujourd'hui Alexandra Roulet, professeure à l'INSEAD, membre du cercle, des économistes, oui, du conseil d'analyse économique. Cécile Lejeune, présidente de Kantar Insight France, à l'occasion de cette spéciale tech et de ce baromètre exclusif pour BFM Business. Les 25 ans de technologie vus par les Français. Jean-Yves Lorenzi, le président de l'association pour les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, qui a coécrit un monde de violence et après 14 propositions pour éviter une crise mondiale chez Erol. Frédéric Simotel, spécialiste de la tech sur BFM Business, et pour m'accompagner, pour animer cette émission, Anthony Morel, également spécialiste de la tech sur BFM Business. Est-ce nécessaire de le rappeler? Avant d'évoquer notamment l'IA et l'emploi et désillusion ou révolution pour les entreprises, est-ce qu'au terme de l'enquête, Cécile Lejeune, on peut voir des distinctions en fonction des milieux sociaux? Les âges, oui, ça on a compris. Plus on est jeune, plus on est geek.
Sur la connaissance de l'IA et l'usage d'un outil IA, non. Je n'ai pas de différence entre les CSP- et les CSP+. Par contre, sur la façon dont ils vont l'utiliser, les CSP+, vont être plus sur du professionnel. Et les CSP- vont être plus sur un usage quotidien de recettes, d'informations, de création de textes et de contenus. Donc aujourd'hui, on ne voit pas encore de clivage. C'est le début, à nouveau. En tout cas, ça les intéresse. Ça intéresse toute la population, même les CSP-, et ils commencent à l'utiliser.
Peut-être juste une remarque. Il ne vous échappe pas que tout le monde a un smartphone.
Oui.
L'usage n'est pas le même. Il y a eu un papier dans les Échos, que je cite, d'Alexandra, il y a deux jours, qui expliquait, qui parlait du rapport au travail. Et évidemment, pourquoi est-ce que les gens ont envie de partir tout en retraite? Pourquoi? Tout simplement parce que tous les non qualifiés, c'est-à-dire maintenant une très grosse partie de la population, a le sentiment d'être exclu du travail, d'une manière ou d'une autre, par la rémunération, par la considération, par la perspective. Et ce qui est très intéressant, c'est de savoir, pour les économistes, mais aussi pour nous tous, savoir comment, en quoi, est-ce que l'intelligence artificielle permettrait, avec un conditionnel, d'essayer de redonner une espèce de version positive du rapport, en fait, à la société et à l'emploi? Est-ce que, alors je vais vous poser une autre question, puis j'arrête après, plus de questions, parce qu'on a toutes les réponses, mais est-ce que les gens ont le sentiment que ça les rapproche à la société, ou est-ce que c'est très individualiste?
Alors, compliqué, c'est... hein. Bon, ouais. Alors, je sais pas si Cécile Lejeune a un avis là-dessus.
On n'a pas posé la question directement, qui est une très bonne question qu'on pourra poser la prochaine fois. Donc, je ne peux pas vous répondre.
Question presque philosophique.
Oui. Je pense que l'usage est très individuel quand même encore aujourd'hui. Et puis, je suis pas sûr que malheureusement l'intelligence artificielle ait toutes les vertus, quitte à rendre les perspectives professionnelles des non-qualifiés brillantes et ouvertes et prometteuses, passé l'âge de 50 ou 55 ans. Dans les sujets qu'on avait retenus, alors c'est une idée d'Anthony, c'est toutes ces entreprises qui, un petit peu par précipitation parfois, ou par mimétisme, ont décidé d'adopter l'intelligence artificielle. Comment elles le vivent avec le recul?
Ouais, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, il y a des études qui montrent que 80% des projets d'IA qui sont mis en place dans les entreprises échouent. Et c'est un chiffre qui est absolument énorme. C'est-à-dire qu'il y a plein de, ce qu'on appelle des proof of concept. On teste des choses, on commence à mettre un peu de ChatGPT, on dit, vous allez voir, ça va augmenter votre productivité. Souvent, ça vient de la direction. La direction voit que tout le monde parle d'IA, donc il dit, bon, les gars, faites-nous de l'IA. Il dit ça à leur direction de l'innovation. Et puis, en fait, à la fin, ça fonctionne pas. Et on se demande pourquoi ça fonctionne pas. Alors, il y a plusieurs éléments. Peut-être que vous avez des réponses. Moi, je pense que les boîtes savent pas forcément comment s'y prendre. Souvent, elles y vont trop vite. Elles essayent de foncer et puis au final elles reviennent en arrière. Je pense par exemple à l'exemple de Klarna dont on avait parlé, spécialiste du paiement fractionné, où en gros ils ont viré tout leur service client, une grande partie de leur service client,
ils ont fait machine arrière.
Ils ont dit, bah finalement en fait l'humain c'est bien parce que les clients sont pas forcément satisfaits quand ils discutent avec une IA, elle a pas toutes les réponses, elle a pas d'empathie avec l'humain. Donc voilà, c'est un bon exemple. Je pense qu'il y en a plein d'autres et on voit bien que l'IA dans les entreprises c'est pas si facile que ça, c'est pas aussi simple que de dire bon les gars maintenant utilisez tous ChatGPT et vous allez tous gagner en productivité.
Oui. L'histoire, c'est que c'est révolutionnaire et ça donnait l'impression d'une révolution automatique, presque d'une impression de baguette magique qui n'est pas forcément avérée partout. Frédéric Simotel et puis Cécile Lejeune pourra me donner son avis parce que je crois que chez Kantar, vous avez un peu expérimenté l'IA. En fait, moi, pour être au contact régulièrement avec des patrons du digital, des chefs AI officers, effectivement, il y a ce côté un peu désillusion avec le côté un peu magique quand c'est arrivé.
C'est
donc, on a lancé plein de proof of concept, le passage à l'échelle était plus compliqué. Ensuite, aujourd'hui, il faut bien voir ce qu'on veut faire. Soit, moi, je vois trois axes. Le premier, c'est la bureautique. Voilà, on va améliorer, on va résumer des réunions, on va répondre à des mails, tout ça. Ce qu'on fait au quotidien, bon, on va le faire un peu plus vite, un peu automatisé. Ça marche bien, mais par contre, il faut de l'adoption continue parce que souvent, on voit l'outil les deux premiers jours après sa formation, puis après on reprend un peu ses habitudes. Là, il faut un petit peu se forcer pour aller vers ça. Le deuxième axe, c'est les métiers. Je prends notre métier de journaliste. Bien nous, est-ce que il y a des choses à faire avec cette IA autre que ce dont je viens de citer, la bureautique, donc dans la recherche. On parlait de vidéos, faire des vidéos, faire du doublage, faire de la traduction, des choses un peu nouvelles. Et puis la troisième chose, et ça dans tout un tas de métiers, la relation client, enfin il y a beaucoup de choses. Et le troisième métier, c'est est-ce qu'il y a des nouveaux services à inventer ? Est-ce qu'il y a des choses que on ne sait pas vraiment faire aujourd'hui et que l'IA va nous aider, alors peut-être via les agents. Et c'est vraiment ces trois questions qu'il faut se poser. Après, voilà, je suis d'accord avec ce que dit, enfin, ces chiffres-là. On le voit aujourd'hui en entreprise. Il faut aussi avoir les compétences. Parce que là aussi, c'est des choses à développer, c'est de l'organisation, il faut trouver ça. Donc voilà, il y a plusieurs, pas des freins, mais des obstacles, et il faut bien en être conscient quand on se lance ces projets.
Alexandra Roulet.
Oui, je pense que l'IA en entreprise, que ça permet vraiment, c'est d'effectuer des gains de productivité. Donc parfois, on entend des discours un peu alarmistes sur l'IA, c'est la fin du travail. Donc bon, c'est des discours qu'on entend à chaque fois qu'on a un progrès technologique majeur. Donc,
toutes les innovations.
Première révolution industrielle, les ouvriers britanniques cassaient les machines à tisser.
Canut, le lion.
Voilà.
Oui.
Keynes en 1930, avec la diffusion de l'électricité, etc., disait on va avoir du chômage technologique. Voilà, ça va être, il y aura plus autant de travail. Bon, à chaque fois on a cette crainte. Bon, il vous aura pas échappé qu'en fait il y a des emplois qui se détruisent et d'autres qui se créent. Donc exactement ce que vous dites. Des services qu'on ne peut même pas encore nécessairement imaginer. C'est le processus naturel. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, il y a des, enfin, la technologie, elle est inventée pour remplacer des tâches humaines. Donc oui, elle va remplacer des tâches humaines, bien sûr. Mais elle induit des gains de productivité. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous permet de faire les choses plus vite. Et généralement, les entreprises, quand elles ont des gains de productivité, elles se contentent pas de produire la même chose en utilisant moins de ressources, elles produisent plus. Donc les entreprises qui vont le mieux adopter l'IA, elles vont être plus compétitives, elles vont gagner des parts de marché, elles vont croître. C'est ce qu'on voit très très nettement dans les données, c'est-à-dire que dans les données, on voit par exemple pour l'adoption des robots, mais on voit les mêmes résultats pour l'adoption de l'IA, donc les données plus récentes, qu'en fait, pour une entreprise, généralement, par rapport à des entreprises similaires, celles qui adoptent mieux les technologies ou davantage les technologies, elles croissent en emploi. Elles croissent en emploi, oui. C'est-à-dire que, pourquoi ? Parce qu'elles croissent en chiffre d'affaires, elles croissent tout court. Et donc, même si certains métiers dans l'entreprise, oui, ont été automatisés ou remplacés par de l'IA, etc., le fait que l'entreprise soit en croissance, ça génère évidemment de l'emploi. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir quand même un discours relativement positif sur l'effet de l'IA, de cette nouvelle technologie, sur l'emploi. Et sur ce que vous disiez, la grande désillusion, je pense qu'il y a aussi le côté, tout ça est en train de se construire. Donc, les usages sont encore peut-être imparfaits, les clients ne sont pas satisfaits. Oui, il faut essayer d'avoir de la complémentarité, il ne faut pas remplacer l'homme, mais ça va aussi s'améliorer.
Oui, puis il peut y avoir une forme de réticence des collaborateurs aussi. On le voit bien dans les entreprises, y compris ici, quand il y a un nouveau logiciel de note de frais, tout le monde est en panique déjà. Donc, si vous voulez, quand on arrive avec des outils d'intelligence artificielle et on vous dit, vous allez utiliser ça et vous allez voir, ça va booster votre productivité, faut pas sous-estimer le fait qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui sont un peu, qui rechignent, en fait, tout simplement.
J'ai quand même une question sur les gains de productivité.
Je suis évidemment tout à fait d'accord avec Alexandra sur globalement ce qui va se passer, que c'est positif.
Ça, ce serait. Ce que dit Alexandra, c'est l'histoire se répète toujours et vous verrez.
Oui,
les craintes d'hier ont été démenties.
Le canut lion qui n'était pas content.
Oui,
il y a quand même la période de transition.
Voilà.
Et les êtres humains sont. Nous sommes tous pareils. C'est très gentil, le bien de l'humanité, mais si on n'a plus de quoi. On n'a plus de quoi se nourrir ou travailler. Donc, c'est toujours un tout petit peu plus compliqué. Mais ce qui me frappe, c'est de voir où les emplois vont être supprimés et où ils vont être créés. Les emplois, je suis mille fois d'accord avec Alexandra sur l'idée, tout ce qui cadre, etc. Ça va être... Classe moyenne, c'est quand même évidemment là où ça va toucher le plus. de manière la plus forte. C'est, au fond, tout ce qui est bureaucratie simple, ça va disparaître. Et les non qualifiés, le voiturier, l'IA, ça va changer la face du monde. Donc, sauf les voitures, là aussi, il faut être très lucide sur la manière dont, dans les politiques sociales qu'il doivent accompagner, c'est être très lucide sur le fait que ça se fait pas du tout, et là-dessus, mille fois d'accord avec Alexandra, sur peut-être la quantité de travail, la croissance, et vous avez parlé de productivité, mais il y a des catégories de gagnants, il y a des catégories de perdants, et les perdants, c'est perdants. Je rappelle quand même que je suis frappé de voir que, en gros, 50% de toutes nos populations, en tout cas, dans tous les pays de l'OCDE, se retrouvent plus ou moins avec 50% de populistes. Donc on a un petit problème, là, qui est un problème politique, de perception de l'évolution du progrès de nos sociétés.
C'est très important ce que vient de dire Jean-Hervé, parce qu'en effet, moi, je parle d'effet moyen, et c'est vrai qu'il y a des gagnants et des perdants, et qu'en fait, bon, ça paraît un peu rapide de dire ça comme ça, mais c'est quand même quelque chose qu'on a échoué à faire dans les précédentes révolutions, c'est de bien prendre en charge les perdants. Et l'IA a une spécificité, c'est que ça va plus vite. Et donc, prendre en charge
par rapport aux précédentes révolutions.
Oui, et du coup, prendre en charge les perdants, c'est vrai, parce que qu'est-ce que ça veut dire prendre en charge les perdants? Ça veut dire idéalement les reformer pour qu'ils puissent aller sur d'autres métiers. Et c'est vrai que plus les changements vont vite, plus c'est difficile. Donc, je suis d'accord que ça, quand je dis je suis optimiste sur le fait que je pense pas du tout que l'IA, c'est la fin du travail. Et globalement, voilà, il va toujours y avoir de l'emploi. Mais sur le fait que ça nécessite des politiques publiques adéquates d'accompagnement, notamment des gens qui sont impactés, et que le défi est peut-être encore plus grand que dans les années passées, alors qu'on n'a déjà pas très bien réussi à le faire dans les années passées, ça, je suis tout à fait d'accord, et c'est un point très important.
Et je pense qu'il y a un rôle aussi beaucoup des patrons d'entreprise. Parce que moi, on gagne en productivité. Chez Kantar, on utilise beaucoup l'IA, exactement de la façon dont vous l'avez décrit, c'est-à-dire que tout le monde a accès à Copilot, et quand je dis tout le monde, c'est même la personne de l'accueil, hein, parce qu'on estime que c'est notre devoir que tout le monde puisse l'utiliser. Donc sur la bureaucratie, on a ça, mais on a aussi des solutions d'IA qu'on propose à nos clients, et on est en train d'intégrer l'IA sur la façon dont on fait les études, donc dans le schéma de travail sur les études. Mais ce que je vois, et je pense que c'est la responsabilité aussi des patrons, c'est que d'abord, franchement, les outils d'IA sont très simples à utiliser, beaucoup plus simples que les nouveaux logiciels de compta. En fait, non mais... réellement, enfin, vous utilisez...
Ça dépend lesquels, quand même. Parce que ChatGPT, c'est hyper facile, parce que lui, l'expérience utilisateur a été mise en place.
Oui, les copilotes aussi. Copilotes, c'est... pardon, en français, copilotes. Copilotes est hyper donc, simple à utiliser.
C'est l'outil proposé par Microsoft pour...
Et c'est ChatGPT derrière.
Donc, Word, Excel...
c'est OpenAI. Donc, franchement, c'est très, très simple. C'est même plus simple à utiliser qu'un tableau Excel, où il faut se souvenir des formules. Donc, un, c'est très simple. Et deux... ce que j'ai découvert, c'est oui, on gagne en productivité, mais je pense que surtout, enfin en tout cas chez Kantar, on focalise sur le fait qu'il faut, grâce à l'IA, gagner en qualité de service. Et alors oui, on a un métier de service, hein, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui gagnent du temps vont passer plus de temps avec les clients, plus de temps à servir nos clients, et donc aussi à réfléchir. Donc effectivement, après, il faut que tout le monde ait cette capacité. Mais je le vois à tous les niveaux, et je pense, oui, que ça va créer une fracture. Maintenant, il y a le rôle des patrons d'entreprise est clé, en fait, sur ces sujets-là. Sur, effectivement, comment on aide chacun, d'abord, à avoir accès à l'outil, mais aussi, effectivement, à augmenter la qualité et pas juste réduire la production. Enfin, gagner en productivité.
Je suis toujours très... ça fait un peu la belle histoire, vous voyez, Cécile Lejeune, de dire, mais c'est la technologie qui va vous libérer des tâches rébarbatives et vous laisser plus de temps pour les tâches à prendre valeur ajoutée.
Mais c'est vrai.
Je suis assez quand même sensible à l'argument de Jean-Ravel Lorenzi. Ça va très vite. Il y a une phase de transition. Les perdants, ils peuvent être perdants rapidement. Parlez-en aux gens qui font de la traduction. Parlez-en aux gens qui font du doublage au
parlons-en
cinéma.
Parlons-en aux avocats. Parlons-en à ceux qui sont dans les sociétés de conseil. Les jeunes qui arrivent. Comment un jeune avocat qui arrive aujourd'hui dans un cabinet, est-ce qu'il va plus apprendre comme avant? Et justement, est-ce que
le fait que l'IA puisse aller très très vite en matière de synthèse de jurisprudence, génial. Mais
Le problème, Nicolas, c'est qu'en réalité, personne n'en sait rien. C'est-à-dire que le truc, c'est que
en tout cas, moi, chez Kantar, ça fonctionne.
Ça commence à fonctionner.
C'est que quand on écoute les experts, c'est-à-dire les gens qui sont vraiment qui ont les mains dans le cambouis et des gens vraiment de très haut niveau, ils vous disent des choses très différentes. Il y a quelques jours, il y a le patron d'Anthropic, donc alors, on peut pas lui, il s'y connaît, hein, Dario Amodei, donc une des plus grandes entreprises d'IA au monde, qui dit d'ici 5 ans, c'est 10 à 20% de chômage en plus. Voilà. C'est Elon Musk, il dit non mais il va falloir qu'on repense le sens de notre vie en tant qu'humain parce que de toute façon dans quelques années, l'IA et la robotique, ils pourront faire absolument tout ce qu'un humain est capable de faire. On n'aura plus besoin de travailler. Et puis, à côté de ça, vous avez Andrew Ng, qui est un autre grand penseur, un autre grand théoricien de l'intelligence artificielle, qui dit non, pas du tout. On ne va pas aller vers un salarié remplacé, on va aller vers un salarié augmenté. Voilà. Et c'est celui...
Je l'appelle la belle histoire.
Voilà, c'est celui qui utilise l'IA qui va remplacer celui qui ne l'utilise pas. Et vous voyez, c'est des trucs complètement
exogène, c'est endogène. C'est-à-dire que ça dépend aussi de ce que... C'est pas un scénario plutôt que l'autre va nous tomber dessus. Ça dépend aussi de tout ce qu'on fait. C'est-à-dire collectivement, je veux dire, on peut un tout petit peu influencer le scénario qui va se réaliser.
Juste deux exemples.
Jean-Hervé Lorenzi.
Je reviens un instant sur le voiturier.
Qu'est-ce que vous avez avec les voituriers?
Parce que les voituriers, on est dans une société très inégalitaire où les gens bien qui vont au restaurant, ils adorent avoir un voiturier. Donc il y a beaucoup de voituriers. C'est comme ça.
Bah, ils sont remplacés.
C'est l'exemple quand même même du travail non qualifié qui. Je veux dire, il n'aura pas le sentiment qu'il est complètement exclu de sa société.
Mais Jean-Hervé, il va être exclu parce que la voiture va aller se garer toute seule.
Ça me rappelle une mauvaise plaisanterie que j'avais faite.
Vous avez pris un taxi sans conducteur à San Francisco.
Bien sûr.
Jamais pris encore de taxi, c'est pas souvent, mais
il n'y a plus que ça. Tu en vois plus que de.
Ça me rappelle toujours une mauvaise plaisanterie que j'avais faite dans un voyage où j'étais à côté d'un notaire, un grand chef notaire. Et vous savez que la blockchain, ça remplace le tiers de confiance. Et je lui avais dit en plaisantant que j'étais le président de l'association de promotion de la blockchain. Le type voulait plus me parler après. Il y a quand même, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Il y a une transition très rapide. Il y a quand même, en fait, dans une société qui est très segmentée, vraisemblablement des effets d'accélération de cette... Alors, j'ai tombé le voiturier, j'ai tombé tout ce qui est automatique, auquel vous croyez, moi, pas du tout.
Il y a d'autres métiers, c'est-à-dire, par contre, il y a ce qu'on appelle, alors les chercheurs appellent ça le paradoxe de Moravec, c'est-à-dire le fait que, en fait, avec l'intelligence artificielle et la robotique, ce sont les métiers les plus qualifiés qui vont être remplacés les plus rapidement et que ceux qui sont les plus manuels et les plus, entre guillemets, simple, les choses les plus simples sont les plus difficiles à faire.
Un boulanger,
ouvrir, réparer une fenêtre, voilà, ça l'IA ou un robot n'est pas capable de le faire, alors que dans, par exemple, chez Facebook, Mark Zuckerberg a dit que d'ici un an, 50% du code de l'entreprise serait écrit par de l'intelligence artificielle. Vous voyez, donc c'est des boulots hyper qualifiés vont être remplacés relativement rapidement.
Qui décide le développement de l'IA si c'est pas les hyper qualifiés? J'ai rarement vu les gens scier la branche sur laquelle ils sont assis. Je veux dire, je crois pas du tout non plus à ça, c'est des formules. Donc c'est évidemment une version positive de Christine, c'était la belle histoire et enfin les gens vont pouvoir réfléchir. Et je me mets dans ce qu'on disait tout à l'heure sur les étudiants vont pouvoir non seulement faire leur copie directement, mais pouvoir enfin réfléchir et à la manière dont les cours leur sont donnés.
Oui, ou ne plus réfléchir du tout.
Mais aujourd'hui, on a des outils qui vont voir quelle part d'IA est dans un devoir rendu par l'élève.
Oui. On a quand même ce genre de professeur est capable de savoir à quel pourcentage l'IA a été utilisée sur un devoir. Oui.
Et juste un petit mot, j'ouvre une parenthèse, mais qui est à mon avis importante aussi sur l'IA, dans ce que tu viens de dire, la conception de l'IA. Et si on revient sur les 50 tech, on a un gros échec dans la tech aujourd'hui, et si on parle un peu emploi, c'est les femmes. On a très peu de femmes dans la tech. Je pense que c'est collectif, hein. C'est les écoles, c'est les entreprises et tout ça. Et aujourd'hui, attention, parce que l'IA est principalement développée par qui ? Par des hommes.
Le fait que l'IA soit développée par des hommes, ça veut dire que le produit final...
Ça peut provoquer des biais. Et là, il y a vraiment un travail à faire de ce côté-là.
Ça nous ramène sur la présence des femmes dans les filières scientifiques.
Ouais. Voilà.
Qui a été un sujet d'Elisabeth Borne.
Et c'est un vrai échec, si tu vois, comme on fête les 25 ans de la tech, et pour moi, c'est un vrai échec. On est à 11%, enfin, je sais pas.
C'est même un sujet croissant, c'est pas juste un sujet égalitaire.
Mettez bien le micro devant vous, là.
C'est pas la présence des femmes dans la tech ou de façon générale dans les matières scientifiques, c'est pas juste un sujet égalité homme-femme, c'est un sujet croissance. Parce que si on considère que le talent est également distribué dans toutes les classes sociales, chez les hommes et chez les femmes, le fait qu'on utilise les innovations que faites par un groupe restreint, ça veut dire qu'on se prive de tout un tas d'innovations. C'est les travaux de Xavier Jaravel, Marie Curie habite dans le Morbihan, qui est de dire il y a des talents dont on ne se prive pas et la place est prise par peut-être d'autres gens qui en fait sont un peu moins talentueux. Si on, voilà, normalement, il y a un enjeu croissance derrière le fait de faire accéder les femmes notamment, mais aussi les milieux sociaux plus défavorisés aux professions scientifiques.
Vous l'évoquiez tout à l'heure, Alexandra Roulet, la question des gains de productivité. On a vécu une période de déclin de gains de productivité depuis 2019, un sujet sur lequel les économistes s'arrachent un peu les cheveux, ne parvenant pas à tout parfaitement comprendre, cibler et encadrer pour pouvoir donner une analyse parfaitement juste. Est-ce qu'on peut vraiment aujourd'hui commencer à voir des gains de productivité liés à l'intelligence artificielle? Visiblement chez Kantar, oui. Comment vous commencez?
On commence.
Donc là, on peut espérer qu'il n'y aura pas de paradoxe de solo avec l'intelligence artificielle qui va s'installer dans les entreprises et que vraiment les gains de productivité seront sonnants, trébuchants, rapides, visibles et réellement quantifiables.
Il y a un débat entre...
Comme le disait Anthony, il y a un débat sur l'impact.
Il y a un débat entre académiques.
Ça va être génial. Et ceux qui vous disent que ça va être dramatique, et je sais que j'ai vu des chiffres hallucinants d'un côté comme de l'autre. Et les gains de productivité, sacré sujet.
Daron Acemoglu, prix Nobel de l'année dernière, a une vision très pessimiste. Donc, il va vous dire les gains de productivité. Donc, pour vous donner une idée, les précédentes révolutions technologiques, les gains de productivité, c'est à peu près un point de pourcentage en plus par an sur 10 ans. Donc, si par exemple, vous croissez à un rythme de 2%, avec une révolution technologique, vous allez croître à 3% pendant 10 ans. Et après, vous revenez sur le taux de croissance d'avant, mais vous êtes de façon permanente plus haut parce que vous avez eu cette croissance supérieure. L'électricité, l'éthique, tout ça, c'est un peu le même ordre de grandeur. Quelqu'un comme Daron Acemoglu va vous dire l'IA, c'est 10 fois moins. Mmh. C'est 10 fois moins. C'est 0,07. C'est même un peu moins que 10 fois moins. Et quelqu'un comme Philippe Aguillon, de l'autre côté du débat, va vous dire non, ça va être pareil que les autres révolutions technologiques. Et comment ils arrivent à des estimations différentes? En fait, tous ces calculs reposent un peu sur des hypothèses. Quelles hypothèses? Eh ben, quelle est la part des tâches qui sont vraiment exposées à l'IA? Parmi ces tâches, quelle est la part qui va être vraiment remplacée? Quelle économie on va faire en faisant ce remplacement? Donc, à chaque fois, on fait des hypothèses. Et donc, il y a toujours des intervalles. On n'est pas trop sûr de ces chiffres. Par exemple, sur la part des tâches exposées à l'IA, Daron Acemoglu, il dit c'est que 20%. Le FMI dit c'est 60%. Vous vous rendez compte que l'ordre de grandeur est différent. Donc, selon que vous utilisez 20 ou 60 dans votre calcul, et ça, pour chaque étape du calcul, vous aboutissez à des ordres de grandeur de l'ordre de 1 à 10. Et donc il y a un débat, et moi je suis plutôt du côté positif, c'est-à-dire que je pense que l'IA va générer des gains de productivité probablement de l'ordre des précédentes révolutions technologiques, mais je ne suis pas une spécialiste de l'IA, donc c'est ma position sur un débat qui est ouvert sur le sujet.
Allons-y.
Le débat est lancé, moi je suis plutôt d'abord, je crois que personne n'a la queue d'une idée de ce qui va se passer, donc les économistes doivent être très malaises sur ce sujet-là. Je pense que les phénomènes de nos sociétés sont... L'IA, c'est un point très important, mais ça rentre dans une société qui, d'abord et avant tout, est déterminée par sa structure démographique, qui est majeure. Ces sociétés qui vieillissent sont des sociétés qui sont moins productives ou qui ont des gains de productivité moins forts. C'est beaucoup plus important, à moins que... Mais ça, on n'a pas regardé les vieux qui m'intéressent. On n'a pas regardé comment est-ce qu'ils peuvent... au fond, les seniors, prolonger plus longuement et dans la prolongation de leur vie professionnelle, au fond, rester aussi productif. On a déjà un débat sur la productivité des seniors. Donc, c'est un sujet qui est difficile. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres critères. Et je trouve que d'un côté, Acemoglu, de l'autre côté, Aguillon, sont très légitimes à évoquer ces sujets. Mais très franchement, personne n'en sait rien.
Anthony, oui.
Ouais, deux points rapides. Je pense que il y a aussi des disparités en fonction des secteurs et des branches d'activité.
Bien c'est sûr, hyper clairement.
Si vous prenez une agence de pub, aujourd'hui avec l'IA, il lui faut 2 heures pour faire une campagne de pub là où il lui fallait 3 semaines. Donc là, je veux dire, le constat il est évident. Et sur le vieillissement de la population, alors il y a un élément intéressant aussi parce qu'il y a certains pays qui utilisent alors l'intelligence artificielle et plus généralement la robotique pour pallier le vieillissement de la population. Je pense au Japon, à la Corée, où il y a plein de métiers maintenant. Enfin, il y a des fermes, par exemple, qui sont entièrement gérées par des machines.
Gain de productivité nul, il faut le savoir. Je veux dire, on est dans une logique qui est beaucoup plus profonde. L'IA est très important, mais c'est un des éléments de l'évolution de nos sociétés. Et il se trouve que le vieillissement et la démographie sont, comme le disait Braudel, c'est l'histoire du monde. Et honnêtement, pour le moment, on n'a pas encore réussi à faire travailler les gens de 80 ans pour être ultra efficaces ou se substituer complètement. Il y a un moment où il faut, je ne sais pas, sur tel, je sais pas, un ébéniste, parce que j'ai pris le mauvais exemple tout à l'heure avec le voiturier, mais l'ébéniste, ça va être difficile de le remplacer par une machine qui fait. Donc, attention, c'est juste ça. C'est pas ni positif ni négatif, c'est juste qu'on est confronté à une difficulté intellectuelle lourde.
Non, non, moi, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. oui, Frédéric,
c'est c'est le pape François qui disait on n'est pas dans une époque de changement, on est dans un changement d'époque. Donc c'est ça dont il faut se mettre en avant. Mais par rapport, on voit plein de métiers au niveau RH. Là, je regardais Moderna. Moderna, voilà, on a évidemment connu avec l'histoire du Covid. La chief AI officer, la patronne de l'IA, elle est devenue chief people officer. Elle occupe aussi désormais la fonction de chief people officer. C'est aussi la DRH. Alors c'est pas elle qui va faire la gestion du personnel, mais en fait, pourquoi ça? C'est parce que ils ont commencé à regarder tous les métiers chez Moderna, les chercheurs, les commerciaux, etc. Et ils ont regardé quels sont vos 12 stages, 15 stages de la semaine. C'est ça. Et bien, on va voir lesquels on peut automatiser avec des agents IA. Et à partir de là, ben elle, comme elle est au courant de ces agents IA, elle dit, ben je vois quel type de profil, en discutant avec les métiers, les chercheurs, tout ça, de quel type de profil on va avoir besoin. Et je pense que là, il y a une vraie réflexion à avoir. Est-ce que le DRH du futur, est-ce qu'il va piloter à la fois des agents IA, à la fois des humains? Enfin, il y a vraiment des choses à se poser. Et dans nos métiers, on doit tous se poser la question. Moi, c'est ce que je dis à tout le monde. Hein. Regarde ton métier, dis-toi quelle est la part qui pourrait être remplacée ou accompagnée avec des agents IA, et puis quelle est la part voilà, de rencontres, de discussions ici. Pour l'instant, on a nos avatars, mais on ne les fait pas tourner à plein régime. Mais
c'est le vrai fait, Fred Simotel, là, qu'on a...
Oui. Qui sont remplacés par l'humain. Mais je pense que c'est vraiment la question qu'on doit se poser entre cette part agent IA qu'on va utiliser au quotidien.
On a fini. J'avais une question sur la souveraineté. Juste, vous êtes sensible au fait qu'il y ait de la souveraineté numérique, c'est-à-dire qu'on ait quand même des solutions bien de chez nous, presque physiquement touchables avec les mains. Quand on parle des data, quand on parle du numérique.
Je pense que c'est important dans un monde.
Je pense que c'est important. Et j'en rencontre des chefs d'entreprise qui le pensent aussi.
Oui. Dans un monde non coopératif, on a vu, par exemple, sur l'énergie, on ne le pensait pas avant d'avoir la guerre en Ukraine. On s'est rendu compte que la dépendance à un autre pays, c'était quand même problématique. Je ne vois pas pourquoi, sur la technologie, on n'aurait pas le même genre de sujet. Donc, être trop dépendant technologiquement de certains pays, ça leur donne un pouvoir sur nous qui peut être utilisé à mauvais escient quand, y compris des alliés, peuvent se retourner contre nous.
Le mot souveraineté, ça veut dire être maître de son destin.
Ah, oui, c'est ça. Mm-hmm.
Évidemment, qui va dire qu'il n'est pas pour la souveraineté numérique? Objectivement, on a dit qu'on ne savait rien sur rien, là-dessus, on peut dire que, évidemment qu'il faut.
Mais dire que c'est évident, c'est déjà un élément important. Ouais. Parce que quand vous demandez à des chefs d'entreprise, ils n'ont pas tous envie d'être chez AWS ou chez Microsoft en termes d'hébergement des données en intégrale dans le cloud, par exemple. Ah oui,
et surtout, on n'aurait peut-être pas dit ça il y a 20 ans. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on n'aurait pas dit ça.
Même il y a 2 ans.
Octave Labat était avec nous tout à l'heure. C'était en podcast.
Le patron de VHCloud l'a écouté tout à l'heure.
Bon, c'est cette journée spéciale tech qui va se poursuivre aujourd'hui sur BFM Business à l'occasion des 25 ans de l'émission De quoi je me mail. On aura évoqué quelques sujets. Évidemment, on ne peut pas être exhaustif, mais emploi, productivité, réalité dans l'entreprise de l'intelligence artificielle et comment la technologie a été vécue par les Français depuis 25 ans. Merci Cécile Lejeune pour Kantar d'être venue nous voir et de nous avoir commenté ce baromètre. Merci Alexandra Roulet. On se retrouvera la prochaine fois dans un format classique de l'émission concentré sur l'actualité économique du jour même, évidemment. Jean-Hervé Lorenzi, on se reverra, j'imagine, avant les rencontres d'Aix.
Je ne sais pas.
Ah, il doute.
Et
on verra son avatar.
Merci à mes deux camarades spécialistes de la tech sur BFM Business, Anthony Morel et Frédéric Simotel, de m'avoir accompagné. Tout de suite, c'est une émission spéciale 25 ans de quoi je me mail sur BFM Business. À demain 9h.
Les experts de la tech sur BFM Business.